Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Léa Capuano, mais aussi Corentin Mansois, Maïder Gérard, Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nicolas Slimani. Deuxième temps de notre série consacrée aux universités. Hier, nous observions la méritocratie à l'américaine. Demain, nous parlerons de la liberté de penser des étudiants chinois. Mais aujourd'hui, on revient en Europe. On va parler de l'économie de l'éducation supérieure et des différents modèles d'université qui existent en Europe. Économie de l'éducation supérieure vers un modèle européen, point d'interrogation. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Actuellement, la France est l'un des pays au monde où les droits d'inscription des étudiants internationaux sont les plus faibles. C'est presque comme s'il n'existait pas. Nous avons donc décidé que les étudiants internationaux, qui ne résident pas dans l'espace économique européen, paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation.
Maintenant, si tu veux partir, soit tu es riche, soit tu restes dans ton pays parce que la France a mis ses nouvelles lois.
Je pense que c'est normal car même les étudiants français, ils payent les taxes, ils payent les impôts là-bas, alors que nous, on ne paye rien, juste les frais de scolarité.
Je crois que cette réforme, il faut lui enlever du dogme et l'expliquer de manière très prosaïque. C'est donner la possibilité aux universités qui le veulent de faire payer des droits aux étudiants extra-communautaires. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de faire croire à tout le monde venant de la terre entière que l'enseignement supérieur n'a pas de coût. Je peux pas continuer à dire, on va attirer des étudiants du monde entier, on va pas les faire payer.
Et oui, l'université a bien un coût, nous rappelle le président Emmanuel Macron. Le gouvernement a fait le choix d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers dans les universités publiques françaises. La décision a été entérinée il y a quelques jours par la publication du décret au journal officiel. Certains y voient une remise en cause de notre modèle universaliste. Pour d'autres, c'est l'alignement avec des tarifs pratiqués dans d'autres pays et donc un processus de rattrapage par rapport à d'autres États membres de l'Union européenne. Mais d'ailleurs, comment s'y prennent justement nos voisins européens pour organiser l'accès et le financement de leurs universités? Quels sont ceux qui font le choix de la gratuité? Avec quelles conséquences sur la réussite des élèves? Quelles sont les initiatives aussi pour faire émerger un modèle universitaire européen? Et à quoi pourrait-il ressembler compte tenu des grandes différences qui continuent d'exister? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord avec nous ici en plateau, Pierre Courtiou, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, directeur de recherche à l'EDEC Business School et puis chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne. À nos côtés, en duplex de La Rochelle, Christine Musselin, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin également. Vous êtes chercheuse au CNRS, au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po et puis auteur, entre autres, de La grande course des universités qui était parue aux éditions des presses de Sciences Po, justement, en 2017. Je vais commencer avec vous, Christine Musselin. Comment est-ce que vous interprétez cette augmentation des frais de scolarité pour les étudiants non européens? Est-ce qu'il y a d'autres raisons que celles peut-être évoquées officiellement? Finalement, pourquoi avoir pris cette décision, Christine Musselin?
Alors, je pense qu'il faut le demander aux politiques, la raison pour laquelle ils ont pris cette décision. En tous les cas, la raison officielle qui a été avancée était d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé auprès de ces étudiants étrangers. À mon sens, c'est une raison qui est difficile à tenir, étant donné que dans l'enseignement supérieur, le lien entre le prix et la qualité est un lien extrêmement flou et contestable, puisque on peut avoir des formations tertiaires extrêmement coûteuses sans qu'elles soient pour autant de qualité, et on a par ailleurs des formations extrêmement bonnes qui sont quasiment gratuites, notamment en France. Je pense aux écoles d'ingénieurs où il y a très peu de droits d'inscription. Ou bien à l'école normale supérieure.
Pierre Courtiou, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il est difficile de corréler la qualité de l'enseignement avec son coût?
On ne peut pas le corréler de manière parfaite, mais évidemment, une partie de la qualité de l'enseignement est liée à l'encadrement, et un taux d'encadrement élevé implique des coûts élevés. Donc, encore une fois, cette corrélation n'est pas parfaite, mais il y a évidemment un lien entre le coût et la qualité de l'enseignement.
Et quand Emmanuel Macron explique qu'il n'y aura pas d'augmentation générale des frais d'inscription, est-ce qu'on peut le croire, ou est-ce que les logiques économiques et financières qui sont à l'œuvre aujourd'hui dans le monde universitaire français et plus généralement européen risquent d'y pousser inexorablement?
Je pense que c'est un peu compliqué de présenter les choses comme ça. Disons que ce que je trouve regrettable dans ces annonces, c'est le fait de pas s'appuyer sur un état des lieux. et notamment sur le fait que ces droits d'inscription, l'absence de droits d'inscription pour les étudiants extra-communautaires est une manière indirecte de subventionner la francophonie. Et on n'a pas eu d'annonce sur comment aller, on allait, est-ce qu'il y avait un remplacement de ces politiques ou de cette dimension des politiques qui était présente. Voilà. Donc je pense que quand on réfléchit à un système de financement d'enseignement supérieur, il faut regarder sa globalité. Et là, en fait, ce que je regretterais dans ces annonces, dans l'absolu, je suis ni pour ni contre l'augmentation de droits d'inscription pour les étudiants extra-communautaires, mais je pense qu'il faut réfléchir aux enjeux. Et là, je vois une disparition d'une fonction de ce dispositif dans le système universitaire français, mais plus généralement sur l'accès à la francophonie. Et je vois pas de remplacement évoqué. Donc c'est ça, au mieux, c'est une opération de communication manquée.
Christine Musselin, est-ce que l'augmentation des frais universitaires, c'est un phénomène global en Europe, dans un contexte de difficultés économiques? Est-ce que tous les pays, finalement, se sont obligés, peu ou prou, d'augmenter le prix d'entrée dans les universités?
Non, ce n'est pas un phénomène général. D'ailleurs, quand on regarde l'échantillon des tarifs, alors je vais prendre juste l'entrée en premier cycle, hein, finalement, parce que ensuite, bien évidemment, si on raisonne au niveau du master, c'est un petit peu différent. Mais pour l'entrée en premier cycle, en Europe, on va de zéro droit d'inscription, ce qui est quand même le cas en Allemagne, en Danemark, en Finlande, en Pologne, en République tchèque, etc. Jusqu'à plus de 10 000 euros. En Hongrie, on en est à plus de 14 000 euros. En Lituanie, plus de 11 000 euros. Donc on a une extrême dispersion. Et c'est vrai que ce sont en général les pays qui rencontraient les plus grandes difficultés économiques qui ont eu cette politique, mais pas nécessairement tous. C'est aussi un choix, je dirais, public, donc un choix politique, de financer ou pas l'enseignement supérieur d'un pays.
Oui, et puis par ailleurs, il y a des pays qui ont décidé de faire l'inverse. Par exemple, du côté de l'Allemagne, certaines universités avaient décidé à un moment d'augmenter les prix d'accès à l'université. Finalement, ils sont un peu revenus dessus. De la même manière, quand on regarde du côté de la Grande-Bretagne, qui a une culture universitaire, on va dire, différente. On va revenir tout à l'heure sur les différents modèles, mais là aussi, on avait choisi il y a quelques années, au début des années 2010, d'augmenter assez fortement les prix d'accès à l'université. Et finalement, on est en train de revenir dessus. En tout cas, on y pense. Donc, on voit bien que le mouvement est peut-être en train de s'inverser de ce côté-là aussi.
Je suis pas sûr qu'il y ait une diminution des prix très prochainement en Grande-Bretagne et les derniers échos qu'on a eu d'ailleurs pas plus tard qu'hier si je me souviens bien indiquaient peut-être des tarifs différents pour les étudiants britanniques et pour les étudiants de la communauté européenne. Donc ça voudrait dire quand même faire payer finalement les Européens, ceux qui sont restés en tous les cas dans l'Union européenne. Donc on reste quand même sur un modèle britannique qui est payant.
Pierre Courtois.
Effectivement, il y a beaucoup de différences entre les pays européens. J'aurais tendance à dire que il y a eu des essais aussi. On n'a pas évoqué le cas d'Irlande. L'Irlande a aussi, dans les années 90, supprimé les droits d'inscription pour. Donc je pense qu'il y a plein d'expériences différentes qu'on pourrait regarder de manière.
Il est revenu dessus.
Non, on n'est pas revenu dessus. Non.
Vous avez beaucoup écrit, Christine Musselin, sur l'évolution des systèmes universitaires en Europe. Et ce que vous semblez dire, vous me corrigez si je me trompe, mais c'est qu'il y a d'abord, d'un côté, un mouvement un peu de fond, avec un peu partout en Europe des réformes qui partagent un certain nombre de points communs, mais aussi des spécificités à chaque pays. C'est vrai qu'on commence par regarder les points communs, justement. Qu'est-ce qu'on retrouve comme point commun quand on regarde les différentes réformes universitaires qui ont été menées par les pays d'Europe ces dernières années?
Alors, je crois qu'il y a quatre grands mouvements, en fait, qu'on peut repérer et dans les différentes politiques qui ont été menées. Le premier, peut-être le plus intéressant, quelque part, puisqu'il relève d'un mouvement intergouvernemental, hein, qui a été signé par un très grand nombre de pays en Europe, c'est le processus de Bologne, quand même. Signature en 1999, après les déclarations de la Sorbonne de 98. Actuellement, il y a 47 pays qui ont signé cette déclaration, donc beaucoup plus que l'Union européenne, hein, beaucoup plus de pays qu'en Union européenne. Et donc là, on a quand même tout un travail qui a été fait sur les 20 dernières années d'harmonisation, disons, non pas des formations, pas des contenus des formations, mais en tous les cas de la manière dont elles sont structurées, avec l'idée d'une licence en 3 ou 4 ans encore dans certains pays, le master en 2 ans, puis le doctorat, ce qui doit normalement quand même permettre une plus grande mobilité des étudiants au niveau de l'échelle européenne.
Ça, pardon, ce système qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, c'est l'essentiel justement de ce long processus dont vous avez évoqué le nom, processus de Bologne, qui a été amorcé il y a une vingtaine d'années maintenant, qui a créé cet espace européen de l'enseignement européen. C'est ça l'essentiel de ce processus ?
À mon sens, oui. Ouais. C'est-à-dire que l'autre aspect qui était d'accroître la mobilité, de la facilité en distribuant à l'issue de chaque formation un certain nombre de CTS, c'est-à-dire European Credit Transfer System, qui était conçu un petit peu comme une monnaie d'échange. Hein. Vous suivez telle formation, vous avez tant de CTS, et une fois que vous avez tant de CTS, vous allez pouvoir partir avec vos CTS dans vos poches et aller dans un autre établissement. Ça n'a pas très bien fonctionné parce que ça supposerait quelque chose qui me semble impossible à réaliser, à savoir un système de qualité, enfin d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur qui permettrait une mobilité totale entre les établissements. Donc c'est une sorte d'euro de l'enseignement supérieur qui n'a pas vraiment fonctionné. Donc c'est plutôt la partie organisation de l'enseignement, effectivement, qui a été la grande réussite quand même du processus de Bologne. Et le fait qu'il y ait ces échanges réguliers tous les deux ans entre les différents pays pour se mettre d'accord sur la manière d'avancer un petit peu ensemble et d'essayer de créer un système qui soit un peu plus harmonieux, effectivement.
Pierre Courtieu, vous êtes d'accord avec Christine Musselin sur le bilan, finalement, de ce processus de Bologne? Oui, certaines choses ont avancé, mais peut-être qu'on n'est pas allé suffisamment loin et qu'on a encore des difficultés à faire converger, finalement, les différents systèmes vers un modèle universitaire européen. On le cherche encore.
Alors oui, il y a des choses qui ont été faites, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense que ça, c'est une évidence.
C'est quoi ces choses à faire?
Christine Musselin les a évoquées. Moi, j'ai tendance à insister sur autre chose, sur le fait que les pays ne sont pas au même niveau, entre guillemets, n'ont pas le même intérêt à développer l'enseignement supérieur. Et je pense que là, par exemple, l'Allemagne est dans une situation assez différente. Et l'Allemagne est un poids lourd de l'Europe. Et l'Allemagne n'a pas des taux d'accès à l'enseignement supérieur très élevés comparés à ses voisins européens. Donc j'allais dire que...
Pourquoi ? Parce qu'elle en a moins besoin ?
Elle en a eu moins besoin. C'est clair, parce que l'accès au marché du travail ne se fait pas uniquement avec le diplôme, il y a aussi une très forte valorisation de la formation professionnelle. Donc on est sur une logique vraiment, vraiment différente. Et de ce point de vue-là, on est à l'opposé de l'Angleterre, qui a été sur une logique de pousser au maximum le développement de l'enseignement supérieur et de la diplomation dans le supérieur. Donc on est sur des logiques qui renvoient à des marchés du travail différents, qui renvoient à des organisations socio-fiscales différentes. Je pense qu'une partie de cette harmonisation et des efforts qu'il y a à faire au niveau européen, elle se fait aussi sur cette cartographie des différences et cette réflexion sur la différence qu'il y a, et pas uniquement dans le système d'enseignement supérieur.
On va faire évidemment cette cartographie, cette typologie des systèmes universitaires en Europe, mais Christine Musselin, pour poursuivre un petit peu sur ce modèle européen, je mets des guillemets parce qu'en réalité on comprend bien qu'il n'existe pas encore en réalité, sur ce manque peut-être de volonté politique qu'évoque Pierre Courtieu, où il nous dit finalement tous les pays de l'Union européenne n'ont pas véritablement la volonté de converger vers un système commun. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il se trouve qu'il y a un an maintenant quasiment, c'était en mai dernier, 20 ans donc après l'adoption de la déclaration de la Sorbonne qui avait lancé ce processus de Bologne, il y a beaucoup de ministres de l'enseignement supérieur qui s'étaient réunis à Paris. Est-ce que vous aviez senti à ce moment-là peut-être une volonté politique de relancer des initiatives dans le domaine de l'enseignement supérieur européen, ou est-ce que vous convergez avec l'analyse de Pierre Courtieu pour dire qu'en fait la volonté n'est pas là?
Je pense que la volonté n'est pas vraiment là dès qu'on est au niveau de chaque pays. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des initiatives d'excellence qui ont été lancées en France et en Allemagne. Donc, deux politiques assez semblables. L'idée, c'est d'identifier une dizaine d'établissements sur lesquels on va mettre beaucoup d'argent pour essayer de les faire, de garantir en tous les cas leur présence au niveau international. Ça semble a priori assez comparable quand on regarde ces deux politiques, française et allemande, qui existent aussi dans d'autres pays. On la retrouve aussi en Espagne. Enfin, il n'y a pas qu'en France et en Allemagne. Mais ce qui est intéressant, c'est de lire les documents dans chacun de ces pays qui donc expliquent ces politiques. ces documents ne font jamais référence à la création d'un espace européen de la recherche et dans l'enseignement supérieur. Ils sont tous, ils mettent tous en avant la nécessité pour chacun de ces pays d'être présent dans la compétition mondiale. Donc les politiques.
Donc il faut se différencier en réalité, c'est ça que
exactement.
Vous dites. Exactement.
Ouais, on est en fait les pays européens restent fondamentalement en compétition les uns avec les autres quand il s'agit d'enseignement supérieur. Ensuite, quand on regarde la manière dont ces politiques ont été déclinées dans chacun des deux pays, derrière les apparences de similitudes, il y a énormément de différences. Donc même sur des politiques qui se ressemblent, on n'arrive pas véritablement ni à se penser dans un espace européen, ni à les penser conjointement.
Mmh. Mais Pierre Courtioux, en quoi est-ce un problème ? On a l'air là, Christine Musselin et vous-même, de regretter qu'il n'existe pas de modèle européen. Et a priori, j'ai envie d'être d'accord avec vous parce qu'on aime bien partager des choses en Europe. Mais on pourrait aussi se dire que c'est pas mal d'avoir des systèmes universitaires différents. Peut-être sont-ils complémentaires en réalité et qu'il n'est pas utile d'aller vers la convergence d'un seul et même modèle.
Encore une fois, c'est un choix culturel et politique. Je pense que c'est un... Après, on est favorable ou pas à ça. Mais
si on analyse les choses d'un point de vue économique, après tout, on pourrait se dire que c'est bien d'avoir différents modèles parce qu'on a aussi différents marchés du travail et que donc, il faut une certaine complémentarité d'un point de vue économique.
En fait, je suis d'accord avec vous. On pourrait présenter les choses comme ça. On peut aussi dire, et c'est quand même récemment, c'est un peu ce qui se passe avec la remise en cause de l'ENA. Hein. Il y a un système universitaire et de formation supérieure française, de formation des élites, qui est particulier à la France et qui renvoie à des politiques industrielles particulières dans les années 70 et même bien avant. Il y a un rapport entre le marché du travail, entre la création des élites, la formation des élites, et on pourrait considérer que c'est terminé. Mais en fait, de fait, le marché, les entreprises ont un jeu mondial. Donc, de toute façon, les élites françaises, il faut aussi qu'elles soient reconnues à l'extérieur pour diriger des entreprises à l'étranger. Encore une fois, il y a plusieurs stratégies possibles. Ça renvoie encore à des choix culturels, des choix politiques.
Vous parlez de ce jeu mondial, effectivement, vous avez raison, on est tous dans la même compétition, celle de la mondialisation. Ce qu'on voit beaucoup, et notamment quand on regarde du côté américain, et depuis très longtemps en réalité, une proximité très forte entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. On a le sentiment qu'en Europe aussi, on va vers davantage de proximité entre ces deux entités-là. D'abord, est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Est-ce que réellement en Europe, il y a un mouvement global de rapprochement de ces deux mondes, le monde de l'université et le monde de l'entreprise ? Et est-ce que c'est si bon que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des menaces qui pourraient peser avec ce phénomène, Pierre Courtioux? Et puis je poserai la même question à Christine Musselin.
Encore une fois, ça dépend quel objectif on fixe à l'enseignement supérieur. Il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être former des archéologues, ça peut être former des gens qui vont travailler pour le bien public, ça peut être aussi des... encore une fois, ça dépend des objectifs. Penser l'université comme quelque chose d'unique avec un seul objectif me paraît dangereux. En même temps, une grande partie si on veut développer une formation dans le supérieur de manière massive, c'est forcément pour que les gens trouvent un travail. Écarter de fait l'insertion sur le marché du travail comme objectif de l'université me paraît suicidaire si on veut développer l'université de manière massive. Voilà. Mmh. Après, une fois qu'on a dit ça, ça ne résout pas tous les problèmes et évidemment, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, quels sont les objectifs qu'on fixe. Et encore une fois, ils peuvent être très très variés.
Christine Musselin, sur cette juste distance entre le monde de l'entreprise et le monde de l'université, vous êtes d'accord pour dire que ça dépend évidemment des objectifs qu'on se fixe?
Oui, bien sûr, mais je pense que de toute façon, il est absolument nécessaire qu'il y ait ce rapprochement entre les formations et les employeurs. Ça s'est fait quand même beaucoup, y compris dans le cas français qui est souvent très critiqué. Il y a eu vraiment développement des formations plus professionnalisantes dans les universités françaises, parfois même presque des formations presque trop étroites et peut-être parfois trop rattachées au marché du travail et de ce fait pas assez souples dès qu'il y a des évolutions. Et puis du côté de la recherche, c'est quand même aussi très important qu'il y ait ce rapprochement entre le monde économique et les universités. Ensuite, il faut pas qu'il y ait une dépendance effectivement des universités vis-à-vis du monde économique.
Et est-ce qu'il y a aujourd'hui dépendance, Pierre Courtioux? Si on regarde, je vais vous laisser développer, mais si on regarde aujourd'hui ce que pèse d'une certaine manière le monde de l'entreprise dans le financement des universités.
Alors, j'ai plutôt envie de rebondir sur un autre élément qu'a évoqué Christine Musselin. C'est sur l'aspect les formations trop ciblées. Je pense qu'un des problèmes qu'on a en France, et c'est, on, c'est, euh, c'est, c'est l'absence de lien entre l'université et la formation continue. Hein, je pense qu'on n'a pas développé. Alors il y a beaucoup de réformes qui ont été mises en place avec le compte personnel de formation, etc., qui vont peut-être déboucher sur des liens plus forts. Mais je pense que comparé à d'autres systèmes en Europe, notamment le système suédois par exemple, généralement développé dans les pays nordiques, on a quand même un faible lien entre la formation continue, l'accès tardif à l'université. Je pense que c'est aussi quelque chose qui fragilise le lien entre marché du travail et université.
Et sur la dépendance des universités aux entreprises?
Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt dépendantes de l'État et des dotations de plus en plus faibles de l'État. Donc, de toute façon, il va falloir qu'elles se tournent vers les entreprises. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Encore une fois, ça dépend comment c'est fait, ça dépend dans quel cadre c'est fait. Ça dépend si c'est fait dans un. On peut imaginer tout à fait des universités dans un cadre local qui développent des formations en lien avec les entreprises locales. On peut imaginer plein de choses différentes et je pense qu'on n'en est pas encore là.
Christine Musselin, faisons un petit peu de pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite typologie des différents modèles universitaires en Europe, et puis on verra leurs particularités en matière de financement avec Pierre Courtioux. Mais d'abord, si on regarde un peu le paysage global en Europe, qu'est-ce qu'on a comme modèle?
Alors, on a presque autant de modèles que de pays, comme on vient de dire, mais si on essaye véritablement de penser à gros traits, on peut dire qu'il y a trois héritages en Europe. Il y a l'héritage dit napoléonien, donc évidemment de ce point de vue-là français, ça date du début du 19e siècle, avec une conception de l'université qui n'est pas le lieu où on fait de la recherche, mais d'abord un lieu où on développe, enfin on décerne des diplômes, et on va avoir essentiellement une vocation universitaire. Il y a le modèle allemand, qui est né pratiquement au même moment. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment deux modèles très très différents qui se sont développés à ce moment-là.
Que vous appelez le modèle Humboldtien, du nom du naturaliste, géographe, explorateur allemand, Alexander von Humboldt.
Alors en fait non, c'est son frère.
C'est Wilhelm von
Humboldt. Et voilà, il y avait deux frères. Effectivement, Alexander étant le grand voyageur botaniste, etc.
C'est lui que j'avais en tête.
Voilà, alors que Wilhelm von Humboldt était plutôt du côté des philosophes, et d'ailleurs il avait travaillé avec des philosophes. Et une conception d'université qui est beaucoup plus basée sur le lien entre l'enseignement et la recherche, avec plaçant au cœur de l'université véritablement le professeur d'université. D'où l'idée de chaire et l'importance des professeurs d'université. Et ça, ce modèle-là a plutôt irrigué toute l'Europe du Nord, je dirais. Voilà. Alors que le modèle napoléonien a plutôt influencé l'Europe du Sud. Et puis, je dirais qu'il y a le modèle britannique qui est à part. Et pour moi, c'est vraiment le modèle britannique. Je suis toujours un peu énervée quand on parle de modèle anglo-saxon de manière générale, comme si tous les pays qui parlent la langue anglaise avaient tous le même modèle. Je crois qu'il y a des différences fondamentales entre le modèle américain et états-unien et le modèle britannique, qui lui s'est développé très rapidement avec des établissements Oxford et Cambridge qui se sont distingués, des universités qui se sont ensuite développées au 19e siècle un petit peu en réaction contre ces deux modèles-là, et donc qui fonctionnent sur une autre logique. Dès le départ était beaucoup plus concurrentielle d'ailleurs.
Pierre Courtioux, quand on regarde donc ces trois différents modèles que nous décrit Christine Musselin, le modèle napoléonien, le modèle humboldtien et puis le modèle britannique, en matière de financement, quelle différence?
En fait, les différences que j'ai en tête rejoignent ces séparations, avec aussi l'idée que le modèle anglo-saxon n'existe pas, et qu'en tout cas il est très hétérogène, je suis tout à fait d'accord avec cette... Même si on peut partir...
Mais on peut parler d'un modèle britannique?
Pas forcément. En tout cas, maintenant, il y a un modèle anglais et un modèle écossais, pour le moins.
D'accord, tout à fait.
Même un modèle irlandais. Donc, non, même britannique, ça me paraît compliqué, puisque les politiques sont régionales. Donc, non, anglais, le bon terme, pour le coup.
D'accord. En anglais, où les étudiants sont en gros responsables de leurs études et ils en assument le coût.
Oui.
Voilà. Et de ce point de vue-là. Donc là, c'est vraiment le régime libéral.
Il y a plusieurs manières de penser le mot libéral. C'est libéral, c'est un mot qui peut regrouper beaucoup de choses, peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme-là. On pourrait aussi parler de modèle libéral dans le cadre dans, dans le cas des pays nordiques. Hein. Ce qui va changer, c'est il y a aussi une forme d'autonomie, de responsabilisation, de lien avec l'individu. C'est l'individu qui est responsable, qui prend en charge l'individu dégagé de sa famille, donc de sa famille, de son origine sociale aussi. Mmh. Alors il peut être aidé par des fonds publics en partie. C'est le cas nordique, on va dire. Et puis il peut aussi s'endetter pour faire ses études et donc miser sur sa carrière future. Et ça, c'est plutôt le cas britannique récent.
Alors, on va détailler le cas anglais, le cas nordique, mais je pense...
J'ai dit britannique, en fait, je voulais dire anglais.
J'avais compris, c'est pour ça que j'ai repris. Christine Husselin, je vais poursuivre un tout petit peu, si vous le permettez, avec Pierre Courtiou, pour essayer de faire une analyse vraiment économique, justement, de ces différents modèles. Si on veut faire une analyse purement financière des différents modèles universitaires, il faut regarder ce qui est dépensé, on regarde ce que ça rapporte, et puis ça vous permet d'avoir une idée du rendement. Ça, c'est pour la théorie. Maintenant, pour la pratique, Pierre Courtiou, comment on fait? Est-ce qu'on est capable, tout simplement, de faire ce calcul? Et qu'est-ce que ça nous dit, justement, de l'efficacité économique, je mets toute une série de guillemets, des différents modèles universitaires qu'on vient de décrire?
Alors, premier élément de réponse, oui, ça se fait. Et ça se fait même de manière assez courante, puisque c'est l'OCDE publie régulièrement, enfin tous les ans, des chiffres sur le rendement des études. Alors, après, on peut nuancer un petit peu en voyant que...
C'est un calcul qu'on sait faire.
J'ai même fait ce calcul pour la France dans certains travaux que je tiens à votre disposition, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on fait de manière qui se fait couramment. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. La méthodologie n'est pas toujours stable. Il y a des enjeux autour de comment on le calcule. Évidemment, un indicateur en tant que tel ne suffit pas toujours parce qu'on sur un indicateur moyen, faut différencier selon le type de formation. Il faut aussi avoir des éléments sur le risque, sur ce genre de choses. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs méthodes et
une fois qu'on s'est mis d'accord sur une méthode,
elle change. C'est le point auquel je voulais arriver, c'est-à-dire que l'OCDE, par exemple, si vous prenez les derniers chiffres de l'OCDE, ils vont vous dire attention, les chiffres sont pas comparables avec ceux de l'année précédente qui sont pas faits avec la même méthode. Donc ce qui veut dire qu'on sait faire, on a une manière générale de penser ces choses-là, mais on n'a pas stabiliser cet état de l'art.
Bon, alors si on regarde un petit peu sur le temps long, parce que j'ai bien compris que les méthodes changent, que ça dépend des années, etc. Mais est-ce que du coup, on peut en dire quelque chose? Ou est-ce qu'en réalité, on ne peut rien dire des rendements, une fois encore, je mets des guillemets, des différents modèles? C'est ça que vous nous dites. On sait faire, mais en même temps, on ne sait rien en dire.
Je vais raisonner par analogie. En fait, quelque chose qui est peut-être plus connu, qui est l'espérance de vie. L'espérance de vie se base sur ce qu'on peut imaginer vivre, enfin penser vivre, ce qu'on peut projeter de vie à partir de ce qu'on observe aujourd'hui. Donc là, c'est la même chose. Quand on cherche à mesurer les rendements, on s'appuie sur ce qu'on connaît aujourd'hui de la dispersion des salaires, des différences de salaires au jour d'aujourd'hui. Donc c'est forcément une projection, c'est forcément plus variable que l'espérance de vie. Ça dépend des données qu'on a et ça dépend aussi des chocs qu'il peut y avoir sur le marché du travail, de la crise, bien sûr, des enjeux jouent sur ce mode de calcul.
Christine Husselin, si je vous lance sur cette question de la rentabilité universitaire, sachant que vous n'êtes pas économiste et que quand j'interroge l'économiste, finalement il me dit qu'il sait faire mais qu'on ne sait pas vraiment quoi dire, j'exagère.
On peut dire des choses, j'étais sur la méthode, je pensais que vous nous interrogez. Si vous voulez des éléments plus précis, on peut en discuter.
Je
dirais très simplement, c'est-à-dire que, en fait, grâce à ces méthodes, avec toutes les incertitudes qu'on a sur la manière de calculer, on réussit à montrer que faire des études, finalement, ça rapporte. Et ça rapporte à titre individuel. C'est ce qui souvent justifie le fait d'introduire des droits d'inscription. On se dit, puisqu'il y a un gain individuel à faire des études, finalement, ceux qui en bénéficient doivent payer. Et par ailleurs, on peut aussi montrer que le fait que les gens fassent des études peut aussi avoir des conséquences en termes de biens publics, de rendement public. Maintenant, il y a d'autres conséquences aussi plus collectives que les économistes ont du mal à intégrer dans leur calcul. C'est-à-dire que on sait très bien que des populations plus éduquées vont bénéficier d'un plus grand bien-être, il y aura des bénéfices de santé pour l'ensemble de la population. Et ça, on a beaucoup de mal à le calculer, d'où toutes les difficultés qu'il y a autour des méthodes qu'on emploie et des données même dont on dispose pour pouvoir faire ce type de calcul. Mais globalement, oui, il y a un rendement de l'éducation à titre privé et à titre collectif.
Alors je repose ma question, puisqu'il y a un rendement, Pierre Courtiou, quand on compare les rendements des différents modèles, on dit voilà, modèle napoléonien, modèle humboldtien et modèle anglais, lesquels sont les plus efficaces économiquement?
Alors, Justement, je pense que la question ne se pose pas vraiment comme ça. Parce que c'est-à-dire que de toute façon, l'enseignement supérieur est très efficace. De toute façon, c'est quand on compare les rendements, justement, qui sont de l'ordre de... Entre 8 et 15%. Alors, c'est une fourchette très large, mais il faut, l'élément de comparaison, ça va être le taux de croissance ou le taux d'intérêt. Donc, vous voyez qu'on est largement au-dessus d'un investissement. Voilà. Donc, de toute façon, même s'il y a une incertitude
sur... Ça donne une indication.
Il y a une incertitude sur la marge, mais c'est énorme. Hein. Donc, il faut juste avoir en tête que c'est un bon investissement. Alors, après, le risque, c'est un bon investissement. Après, c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est un bon investissement. Donc, je pense que quand on a ça en tête, déjà, on a des éléments concrets. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ce rendement, il est calculé par rapport aux différences de salaire des personnes qui sont pas diplômées. Donc, ça veut dire aussi qu'un modèle plus égalitaire, ou même avant la redistribution via l'impôt, par exemple, un modèle qui est plus égalitaire dans la fixation des salaires, sera de fait peu rentable. Et c'est plus ça qui va jouer que le coût des universités. C'est bien le marché du travail et l'organisation du marché du travail et la fixation des salaires.
Peut-être qu'on pourrait regarder en particulier le modèle scandinave. On en fait souvent l'apologie. D'abord, on va entendre justement une étudiante danoise qui nous parle de ses études au Danemark, justement.
Le soutien financier que je reçois comme étudiante au Danemark est vraiment essentiel pour moi. Je ne pourrais pas payer de frais de scolarité ou mon loyer si je n'en bénéficiais pas. Je ne pense pas que je ferai un emprunt pendant mes études au Danemark, ce qui est plutôt pas mal. Comme ça, je pourrais directement gagner de l'argent quand je travaillerai.
Voilà donc le témoignage d'une étudiante danoise qui avait été diffusée sur la BBC en février 2018. Christine Musselin, ce modèle scandinave dont on chante très souvent les louanges, alors peut-être qu'on pourra regarder sur le plan de l'investissement s'il est bon, mais peut-être ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est cette gratuité d'accès à l'université, parce que c'est ça qu'il y a dans ce modèle-là. Est-ce que c'est une garantie contre la discrimination sociale? Est-ce que on peut le corréler aussi avec la réussite des étudiants? En gros, est-ce qu'on peut dire que les étudiants réussissent mieux lorsqu'on finance leurs études? Christine Musselin. Alors,
ça, je crois que c'est très clair. C'est-à-dire que toutes les études montrent que quand les étudiants doivent travailler en plus, enfin, ou à côté de leurs études, les chances de réussite sont quand même de toute façon plus faibles. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas tellement d'équivoques. Hein. En revanche, le lien entre la gratuité et la réussite, personnellement, je ne connais pas de travaux qui le montrent de manière très claire, pas plus que le fait de payer ses études. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un lien extrêmement fort. Là, on est plus du côté des processus de sélection lors de l'accès à l'enseignement supérieur, que ce sont surtout ces processus-là qui peuvent faire varier les taux de réussite. Mais ce que je trouve intéressant dans le témoignage que vous avez diffusé, c'est effectivement qu'on ne peut pas parler des droits d'inscription sans simultanément se demander quelles sont les politiques de soutien aux études. Mmh. Et quand je dis de soutien aux études, ce sont effectivement ces bourses qui peuvent permettre à des étudiants de faire leurs études. Et là, quand on regarde, on voit bien que il y a des pays où effectivement il y a très peu de droits d'inscription, c'est le cas de la France, ou bien le cas de l'Allemagne par exemple. Mais les bourses dont on peut bénéficier sur critères sociaux vont être de niveaux très différents. Elles sont relativement faibles en France. Je crois qu'elles sont en moyenne autour de 5 ou 6 000 euros par an, alors qu'elles sont plutôt autour de 9 000 euros en Allemagne. Donc, pour des droits d'inscription comparables, vous avez des bourses d'accompagnement qui ne sont pas du tout les mêmes. Et quand on regarde les pays scandinaves, effectivement, on a des droits d'inscription qui sont inexistants ou faibles, mais des bourses qui peuvent atteindre des montants assez élevés.
Pierre Courtiou, sur ce modèle scandinave, est-ce qu'il y aurait des choses à aller prendre, justement?
Alors, je pense que oui, je pense que c'est intéressant d'avoir tout ce qu'a dit Christine Musselin sur le modèle scandinave. Il y a une chose qu'on ne retient pas forcément, qu'on n'a pas forcément en tête quand on en parle, c'est que les étudiants s'endettent aussi. Alors, oui, il y a effectivement dans la partie frais de vie, qui est Une partie bourse et une partie aussi une partie emprunt. Et je pense que ça fait partie de la
logique. Pour se loger, pour se nourrir,
oui, etc. Voilà, c'est ça.
Donc, c'est l'accès en réalité à l'université, mais après, bon, il y a des pays où il y a quand même des aides particulières, y compris pour le logement, pour le transport.
Oui, bien sûr. Mais je pense que faut pas non plus associer le modèle scandinave à une gratuité complète et à un niveau de bourse élevé. Le niveau de bourse est très élevé. Il y a une part des bourses qui ça fait partie d'une tradition très ancienne qui date d'après la Première Guerre mondiale. Donc, ça date depuis très longtemps, ce projet d'inciter les personnes à aller à l'université. Donc je pense que ça, c'est important. Mais c'est aussi important d'avoir en tête que c'est un modèle très redistributif. C'est un modèle dans lequel on aide les gens à se former, mais dans lequel également les étudiants s'endettent. Là, ce qui va changer avec l'autre modèle libéral, mais un modèle libéral plus violent, plus dur, le modèle britannique, non, anglais. Je plaisante. Le modèle anglais, c'est le...
Non, parce que là, on va tous s'y retrouver.
C'est qu'en fait, par exemple, les étudiants qui sont de milieux plus défavorisés ont le droit d'emprunter plus. Mais le droit d'emprunter plus, c'est une aide plus compliquée. Mmh. Mais alors, il y a donc c'est pas la même chose d'avoir le droit d'emprunter plus, avoir le droit et avoir une partie de bourse, tout en sachant que ce qu'on oublie de dire aussi sur le modèle britannique, c'est que
anglais.
C'est un modèle je suis parti là-dessus sur le modèle anglais, c'est qu'en fait il n'y a pas de coût d'accès à l'université, le coût pour les étudiants est plus tard, ils s'endettent et ils vont avoir aussi ce qu'on appelle un prêt remboursement comptant de leurs revenus, ça veut dire qu'ils ne vont rembourser leurs dettes après leurs études, une fois sur le marché du travail, que si leurs revenus courants sont supérieurs à un certain seuil. Et ça concerne les bourses. Ça concerne les aides aux frais de vie, les emprunts pour frais de vie, comme les frais d'inscription.
Et de quoi dépendent justement ces frais? Est-ce que, en gros, si je le dis vite, est-ce qu'une université prestigieuse coûte plus cher qu'une université moins prestigieuse, ou est-ce qu'une fois encore, c'est pas aussi simple que ça? Pour le modèle anglais.
De toute façon, il y a toujours des bourses. Hein, l'accès au financement devait s'accompagner d'une liste, en fait, d'une justification de tous les éléments que l'université mettait en place pour favoriser la mixité sociale, ce genre de choses. Donc, pour favoriser l'accès des plus défavorisés à l'université. Donc, il y a même si les droits sont chers, il y a toujours un système parallèle qui va justifier le fait jouer sur le fait que l'université sera quand même ouverte à des publics plus défavorisés.
Si je peux intervenir juste
vous
sur
pouvez
le cas
intervenir,
anglais,
j'allais vous donner la parole, Christine.
Justement, le premier cycle est au même niveau, en fait. C'est-à-dire que l'entrée à l'université est à peu près partout à 9000 pounds ou un petit peu plus de 9000 pounds, ce qui doit faire un peu plus de 10 000 euros. Et que quand le gouvernement britannique a fixé ce seuil maximal aux établissements anglais, ils sont tous allés jusqu'à 9000 pounds, ce qui montre encore la difficulté du lien entre la qualité et le prix. En revanche, ce qui est libre, enfin en tous les cas beaucoup moins réglementé, à ma connaissance, ce sont les prix des masters. Et là, il n'y a pas un tarif unique pour toute l'Angleterre. Ça va dépendre effectivement de la réputation des universités. Ça peut dépendre aussi du coût des études. C'est-à-dire que on peut finalement se dire que la formation d'un médecin, ça coûte plus cher que celle d'un sociologue, par exemple, et donc qu'on va faire payer plus cher. Et puis quand on regarde du côté des États-Unis, parfois, certains établissements réfléchissent en termes de quel va être le gain individuel de la personne ensuite, et donc on va faire payer plus cher des études qui amènent à des professions qui rémunèrent mieux. C'est pas tous les établissements qui font ça, mais on voit bien qu'il y a des logiques très différentes de calcul du prix et de détermination de ce que valent les études.
On va retrouver dans quelques instants Luc Ngwe, avec qui on reviendra sur l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants non européens. On va le faire patienter encore un tout petit peu, je m'en excuse. Il y a une toute dernière question sur laquelle je voudrais vous entendre l'un et l'autre. L'une et l'autre, on va commencer avec vous, Christine Musselin. On voit bien là combien il existe une variété très grande des modèles d'université en Europe. Est-ce que réellement il est possible de passer d'un modèle à un autre? J'ai parfaitement entendu tout à l'heure Pierre Courtioux qui nous a parlé de l'Irlande, qui est allée vers la gratuité, qui a conservé ce modèle, donc qui a effectivement changé de modèle d'une certaine manière. Mais est-ce que, compte tenu de l'inertie administrative, institutionnelle, compte tenu du poids de l'histoire, de la culture de chaque pays, est-ce qu'il est vraiment possible de passer d'un modèle universitaire, à un autre, Christine Musselin?
Non, ça, je pense que, enfin, c'est possible, mais avec une durée forcément très longue. En revanche, on peut certainement avoir des principes qui sont beaucoup plus communs. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait travailler certainement au niveau européen. Quand vous prenez le cas des États-Unis, vous avez 50 États aux États-Unis. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Vous avez dans chacun un système universitaire public. Il ne faut pas oublier que la très très grande majorité des étudiants américains vont dans des universités publiques. Et vous avez 50 États, 50 systèmes d'enseignement supérieur différents. Pour autant, vous avez quand même l'idée d'un système américain. C'est-à-dire que les étudiants peuvent relativement facilement passer d'un état à un autre. Souvent, ça coûte plus cher, hein, quand même, de passer d'un état à un autre. Les enseignants-chercheurs eux-mêmes sont sur un marché du travail qui est relativement unifié. Vous pouvez assez facilement passer de d'une université située à New York à une université située en Californie. Actuellement, en Europe, ça reste encore très compliqué. Très compliqué.
Pierre Courtiot, changer de modèle universitaire, alors, c'est quand même très difficile.
Pour dire très vite, je pense que changer de modèle universitaire, c'est compliqué. Par contre, changer de mode de financement, c'est plus facile. Ouais. Ça, il y a eu plein d'expériences dans la période récente.
Vous pensez à quoi?
Ben, l'Australie, je pense aux États-Unis, avec toujours il y a toujours des débats sur les aides fédérales, sur comment on organise les problèmes de dette étudiante. Donc, je pense qu'en tout cas sur le mode de financement,
c'est possible. Alors, la hausse des frais d'inscription universitaire, on en parlait au début de l'émission, pour les étudiants non européens va entrer en vigueur à la rentrée prochaine. Les décrets ont été publiés au Journal officiel le 21 avril. Les étudiants extra-européens devront désormais s'acquitter de 2 770 € en licence et de 3 770 € en master, c'est-à-dire que c'est 10 fois plus qu'auparavant. On va retrouver tout de suite par téléphone Luc Engoué. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, politiste et membre de l'Association sur la recherche et les savoirs et du Centre Population et Développement, le CEPED. Vous vous intéressez à la circulation, à la mobilité des étudiants et des chercheurs africains. Quel regard vous portez sur cette augmentation des frais d'inscription pour les étudiants non européens et quels effets en attendez-vous, Luc Engoué?
Le regard que je porte là-dessus, c'est simplement que ça va modifier progressivement la mobilité, hein. Ça va certainement restreindre la mobilité d'une certaine catégorie, et ça va de l'autre côté transformer la mobilité. C'est-à-dire que les étudiants africains qui venaient, plutôt moins francophones pour la plupart, qui venaient davantage en France, ont trouvé d'autres lieux de mobilité.
Et vers où est-ce qu'ils pourraient se tourner?
Ils peuvent aller on est de plus en plus dans le marché mondial éducatif, hein. Il y a d'autres pôles qui émergent, notamment en Asie, en Amérique latine et même en Afrique. Donc l'Europe était pour eux le premier pôle de mobilité, plutôt moins la France également. Mais est-ce que ça va probablement changer, parce que je pense pas qu'ils pourraient s'acquitter facilement de 3 000 €.
Mais est-ce que c'est si vrai que ça, Luc Engoué? Parce que on peut aussi se demander si la France est encore véritablement une destination privilégiée pour les étudiants africains. Je vais vous donner moi mon expérience. Il y a plus de 20 ans maintenant, j'ai passé plusieurs semaines au Sénégal et je me souviens qu'à l'époque, tous les étudiants que j'avais rencontrés m'expliquaient que c'était pas du tout en France qu'ils voulaient poursuivre leurs études, mais que c'était plutôt du côté des États-Unis, voire du Canada. J'ai quand même le sentiment que ça fait longtemps en réalité que les Africains, s'ils peuvent, font un autre choix en réalité.
Vous dites si bien s'ils peuvent.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Oui, mais ils ont bien la hiérarchie des formations, hein, dans le monde entier, ça c'est clair. Bon, il faut déjà savoir que pour les élites, tout au moins les enfants des élites, les stratégies de formation ont changé depuis bien longtemps. Ils viennent plus majoritairement en Europe, tout au moins en France. Quand ils viennent, c'est pour les grandes écoles. Ils viennent pour la formation universitaire classique, comme telle qu'on la connaît. Bon, maintenant, c'est de plus en plus ce qu'on considère comme étant la couche moyenne ou la classe défavorisée qui vient de plus en plus bien en France. Ça, c'est clair. Donc, et puis, il y a un autre élément qui s'y ajoute, c'est-à-dire qu'il y a tout un parcours de mobilité qui se met en place. On vient en France pour le second cycle, le troisième cycle, on va aux États-Unis. Donc, il y a ces stratégies aussi éducatives qui existent.
Oui, donc ça veut dire que ces parcours-là, ils seront plus difficiles et peut-être en particulier justement pour les enfants des classes moyennes, puisque vous semblez dire que c'est ceux-là qui vont être les plus impactés finalement. Les autres, les fils de diplomates, d'hommes d'affaires, etc., de toute façon se dirigent déjà vers d'autres destinations. C'est ça que vous nous dites. C'est en réalité eux qui vont payer le plus lourd tribut.
Mais ils viennent quand même en France. Mais ils viennent en France non plus pour les études, enfin pour l'université, mais parfois pour les grandes écoles. Parce que c'est des formations qui sont encore distinguées pour eux. Mais quand ils ont le choix, ils vont dans les pays anglo-saxons, pour la plupart du temps, notamment aux États-Unis ou au Canada. Mais c'est pour les autres, notamment la classe moyenne, c'est qu'on considère comme étant la classe moyenne, mm-hmm. qui va être davantage pénalisée, qui, elle, mm-hmm. n'avait pas trop le choix pour venir, mm-hmm. qui venait de plus en plus en France, parce que c'était quand même une bonne entrée, et qui va se retrouver un peu pénalisée.
Il y a beaucoup de débats, Luc Engwe, autour de la question de savoir ce qu'apporte, ce que rapportent même ces jeunes Africains venus faire leurs études en Europe ou même du côté des États-Unis à leur pays d'origine. Si on regarde la France, par exemple, quelle est la proportion des jeunes étudiants africains qui viennent étudier en France, qui rentrent ensuite dans leur pays d'origine, et dans quelle mesure est-ce qu'ils participent au développement socio-économique? Est-ce qu'on a des études sur ce point-là?
Mais il faut savoir que ça a changé depuis bien longtemps. C'est-à-dire que cette perception de la mobilité étudiante des années 60, qui était liée à l'idéologie développementaliste des années 60, a bien changé depuis bien longtemps. C'est-à-dire que c'était toujours, allez, on vient se former, c'est le mouvement de va-et-vient, on vient se former, on va participer au développement en intégrant l'appareil étatique. Ça a changé depuis bien longtemps. Aujourd'hui, il y a d'autres formes de modalités de développement qui se mettent en place, qui intègrent davantage la question diasporique, les questions diasporiques, qui sont à prendre en compte. Donc, il faut plus simplement analyser les problématiques de développement du continent africain sur ce mouvement de va-et-vient à travers la formation. Mais il faut intégrer les questions diasporiques. Donc, dire que les proportions, on vient se former, on ne retourne plus dans son pays, ça veut dire qu'il y a une rupture dans la participation au développement, c'est complètement faux. Il faut intégrer d'autres modalités aujourd'hui, on le sait très bien. La Banque mondiale a évalué la participation des diasporas aux économies. Donc il faut aussi intégrer cette dynamique-là aujourd'hui.
Oui, bien sûr, tout ne passe pas par un retour au pays d'origine. Mais pour ceux quand même qui rentrent dans leur pays d'origine, qu'est-ce qu'ils font une fois rentrés? Vous évoquiez la question de l'administration. Ils travaillent essentiellement dans l'administration ou est-ce qu'on les retrouve aussi dans le secteur privé? Où est-ce qu'on les retrouve?
Pas forcément. Ouais. Pas forcément. Très peu aujourd'hui, tout au moins. Ce serait quand même un peu généraliste de parler de l'ensemble des pays. Les situations sont variables d'un pays à un autre. Mais tout au moins, pour un certain nombre de pays d'Afrique francophone, tout au moins, il y a eu des crises des États des années 80-90 avec les plans d'ajustement structurel et les recrutements de la fonction publique ont sensiblement diminué. Donc, et aujourd'hui, beaucoup d'étudiants qui rentrent, qui ont été formés, qui rentrent, parfois, on n'intègre plus les administrations, on essaie d'une certaine manière de rentrer dans les entreprises privées ou créer leur propre activité économique.
Et est-ce que vous pensez, puis je vais faire réagir nos deux invités, Luc Engwe, mais est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être bon d'obliger, de pousser les jeunes Africains à rentrer dans leur pays une fois leurs études terminées, ou est-ce qu'une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, finalement, on oublie la dimension diasporique et ce que ça évidemment apporte au pays d'origine, et qu'il ne sert à rien finalement de les contraindre et que ça n'améliorera pas le développement des économies africaines?
Moi, je ne pense pas que les contraintes vont améliorer la situation des pays africains, pour une raison toute simple. Si aujourd'hui, vous savez, toutes les sociétés de transfert là-haut, d'argent, la plupart prospèrent, parce qu'il y a le phénomène des diasporas. Si on ferme ce robinet-là, on va avoir des situations de crise sociale en Afrique. Parce que vous savez, vous voyez bien, très bien que les diasporas investissent socialement dans ces pays-là, parfois nourrissent des familles entières, éduquent très souvent, donc viennent en aide aux familles plus globalement. Donc on les contraindre, je ne pense pas que ça va changer la situation. Bien au contraire, ça risque de provoquer des crises sociales beaucoup, beaucoup plus sévères.
Réaction peut-être avec vous d'abord, Christine Musselin, en duplex de La Rochelle.
Enfin, moi je pense qu'il y a plusieurs... D'abord, cette question-là, on peut pas la réduire à la question de l'Afrique, même si on sait bien que ce sont essentiellement des étudiants africains qui vont être en difficulté financière certainement pour certains d'entre eux. Je trouve que ça pose plus largement deux questions. D'une part, celle de la qualité de l'accueil des étudiants étrangers en France. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'elle soit excellente. Et donc, y réfléchir et se demander comment l'améliorer, je pense que c'est un point important.
On va pas vraiment dans ce sens-là.
L'idée, c'est quand même, il me semble avoir compris ça derrière les déclarations, maintenant je me trompe peut-être, c'est quand même de se dire, si on les fait payer, on va pouvoir mieux les accueillir. On pourra en accueillir plus et mieux les accueillir. Mais bon,
à voir. Vous, non mais à voir, vous y croyez?
Ça pose une question plus générale sur les droits d'inscription, c'est-à-dire que moi personnellement, je ne suis absolument pas opposée aux droits d'inscription, mais je trouve qu'il pose toujours quatre questions. Première question, que fait-on des moyens que l'on collecte de cette façon-là ? Deuxièmement, est-ce que les moyens que l'on va collecter vont venir finalement en déduction de l'effort public ? Et donc, est-ce que les droits d'inscription sont en fait une variable d'ajustement des budgets publics ? Et dans ce cas-là, ça pose un problème aussi. Que fait-on payer et pourquoi ? À quoi ça correspond ce que l'on fait payer ? Et d'autre part, quels sont les moyens qu'on met en place pour que ceux qui ne peuvent pas payer puissent malgré tout être accueillis ? Voilà, c'est une question plus générale qui ne serait... Et moi, ce qui finalement me choque, c'est qu'on fasse payer des droits d'inscription uniquement aux étrangers. Soit on introduit des droits d'inscription plus élevés dans l'enseignement supérieur français, y compris pour les étudiants étrangers, soit on dit finalement, on n'a plus cet effort de solidarité qu'on faisait avant.
Y compris pour les étudiants français, vous voulez dire.
Oui, bien sûr.
Communautaires.
Mais bien sûr, bien sûr. Et le fait de le faire uniquement pour les étudiants étrangers, ben, ça s'est fait dans d'autres pays. Hein. Ça se fait en Suède actuellement. C'est comme ça que ça a commencé en Grande-Bretagne. Hein. C'est du côté des étudiants étrangers qu'on a commencé à mettre en place des droits d'inscription. Pour moi, ça rompt avec l'effort de solidarité que doit la France avec le reste du monde. Mais voilà.
Oui, bien sûr, c'est votre point de vue. Pierre Courtiot, sur les effets.
Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Christine. J'ajouterai un autre élément qui est une degré de généralité supplémentaire, qui est de rappeler qu'en fait, un étudiant africain ou autre d'ailleurs, qui vient faire ses études et qui reste en France, c'est tout bénef pour la France. Oui. Il va payer ses impôts en France. Et quelque part, il nous a coûté moins cher. On ne l'a pas formé au début de son parcours éducatif. Et je pense que c'est aussi important d'avoir ça en tête. Parce que
c'est très, très important. En fait, vous nous dites que d'un point de vue économique, c'est très rentable de les accueillir.
Oui. Oui. Enfin, surtout s'ils restent. Une fois qu'ils seront formés, qu'ils auront un travail bien rémunéré, qu'ils paieront leurs impôts en France, évidemment, c'est très intéressant.
Alors, c'est une hérésie économique que d'augmenter les frais d'inscription pour les universités en France.
Il faut être sûr qu'ils restent.
Pour les étrangers.
Il faut être sûr qu'ils restent.
Luc Engwe, dernière réaction. On arrive au terme de l'émission.
Oh ben je partage le point de vue de Christine Michelin, justement, c'est un problème général. Il me semble que en France, on commence par les étudiants africains. Je pense qu'on va y arriver à la situation de la Grande-Bretagne. Ça va concerner tous les étudiants, mais on procède par étapes.
Oui, c'est la première étape et ensuite on va augmenter pour tout le monde. Mais d'une certaine manière, ça veut dire qu'on ira vers plus de solidarité, comme disait Christine Michelin. C'est plutôt une bonne chose.
Je ne sais pas dans ce sens-là, parce qu'elle pose elle a posé quatre questions justement qui sont intéressantes à évaluer. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on va faire payer justement ? Parce qu'on nous dit dans ce discours-là qu'il y a la qualité de la formation. Je ne sais pas, est-ce que ça va arriver dans ce cadre-là ? Moi, je pose beaucoup de questions, mais on verra bien qu'est-ce que ça va donner comme résultat à cette politique.
Merci beaucoup, en tout cas, Luc Engwe, d'avoir été avec nous par téléphone ce matin. Je rappelle que vous êtes sociologue, politiste, membre de l'Association sur la recherche et les savoirs, l'ARES, et membre également du Centre Population et Développement, le CEPED. Knowledge to others in a song. Let me demonstrate the force of knowledge. Knowledge reigns supreme. The ignorant is ripped to smithereens. What do you mean when you say I'm rebellious? Because I don't accept everything that you're telling us. What are you selling us? Merci beaucoup, Pierre Courtiot, de nous avoir éclairé ce matin. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur de recherche à l'EDEC Business School et chercheur associé au Centre d'économie de la Sorbonne. Merci également à Christine Michelin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheuse au CNRS, au Centre de sociologie des organisations, en deux mots, à Sciences Po, et auteur de La grande course des universités qui est parue aux éditions Presse de Sciences Po en 2017. Et je remercie également beaucoup les techniciens qui ont permis de faire ce duplex de La Rochelle. Voilà, on poursuivra demain nos chroniques estudiantines. Ça sera pas moi, ça sera Mélanie Chalandon qui sera au micro de Culture Monde. Quant à moi, je serai au matin pour remplacer Guillaume Erner. Pour l'heure, 11h53, l'heure de retrouver Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Qui nous emmène aux États-Unis depuis lundi. Le politiquement correct aux États-Unis, il est surtout pratiqué sur les campus. Le critiquer, c'est une spécialité de la droite américaine. Donald Trump lui-même s'est servi de certaines dérives pour critiquer les politiques qui lui déplaisaient.
Oui, better than bigotry, disait-il. Et oui, Rand Richard Cooper, dont je parlais hier, dans l'article consacré au guide du langage commun, édité à destination des étudiants par le Bureau de la diversité et de l'inclusion de son ancien collège, Amherst, écrit « Par moments, j'ai l'impression de lire une parodie. Vous savez, une de ces parodies qu'écrivent les essayistes conservateurs pour se moquer du politiquement correct. Et à travers lui, des valeurs de la gauche progressiste américaine. Les progressistes dans son genre, à Cooper, déplorent de devoir ainsi mêler leurs critiques à celles des conservateurs. Ils voudraient défendre les valeurs universalistes et rationalistes de l'ancienne gauche, comme par exemple l'égalité entre les individus, quelle que soit leur ethnicité ou leur couleur de peau. Mais il se heurte à une nouvelle gauche identitariste aussi obsédée par la race que les suprématistes blancs d'extrême droite. Prenez la définition donnée par le guide du langage de Amherst pour l'expression « colorblindness ». Dans le langage de l'ancienne gauche, cela désignait le fait de refuser toute discrimination raciale, l'indifférence aux questions de couleur de peau, bref, l'antiracisme. Mais dans la novlangue universitaire contemporaine, voici la définition donnée de colorblindness. Idéologie qui croit que la meilleure façon de venir à bout de la discrimination raciale passe par le fait de traiter pareillement tous les individus sans tenir compte de leur race, culture ou ethnicité. Cette croyance ignore cependant les facteurs historiques et structurels qui bénéficient aux blancs et désavantagent les peuples indigènes, les noirs et les autres personnes de couleur. Comme l'écrit chez nous Jean-Loup Hamsel, l'idée n'est plus seulement que le racisme est une mauvaise chose, mais que la race est une bonne chose. Beaucoup d'enseignants, d'après Ron Richards Cooper, désapprouvent les initiatives de ces « diversity officers », mais ils n'osent pas s'y opposer ouvertement, de peur d'être ostracisés. Le plus triste, conclut l'auteur, c'est de constater que la double offensive de la nouvelle droite et celle de la nouvelle gauche sont en train de converger pour entraîner les États-Unis dans la voie d'un illibéralisme radical. Trump à la Maison-Blanche, c'est l'incarnation de l'illibéralisme politique. Les universités, elles, se convertissent, jeu de mots, aux illiberal liberal arts, disons aux humanités non libérales.
Et Brice, ces guides du lexique correct, menacent-ils de la liberté d'expression, doublement garantie, en tout cas en théorie sur les campus américains, en vertu d'abord du premier amendement qui interdit la censure, mais aussi des libertés universitaires?
Réponse de Pamela Pareski, une responsable de la Foundation for Individual Rights in Education. Beaucoup d'étudiants usent d'un double standard dans ce domaine. En théorie, ils défendent la liberté d'expression à plus de 90% selon les sondages, mais ils sont deux tiers à juger qu'il faut empêcher les actes de langage inintentionnellement offensifs envers certains groupes. Bref, il faut interdire le hate speech, les discours haineux. Alors s'il s'agissait du racisme, du sexisme ou de l'homophobie, on ne pourrait que les approuver, bien entendu. Mais malgré les guides de langage, plutôt à cause d'eux, le sens des mots mériterait des examens de vérification. Car la notion de hate speech est à présent étendue à toute opinion qui déplaît à une minorité quelconque qui contredit sa doxa. Ainsi, de plus en plus d'étudiants justifient le boycott, parfois accompagné de violences physiques, envers les personnalités dont les opinions leur déplaisent. Ils qualifient les propos tenus par ces mêmes personnalités comme offensifs et violents, mais on ne saurait utiliser le même qualificatif « violent » pour désigner un propos qui déplaît et un coup de poing sur la figure censé lui répondre. C'est un abus de langage. Le droit d'expression est un principe fondamental aux États-Unis et les universités devraient s'en souvenir. Joshua Clover, un spécialiste de poésie française qui enseigne à l'université Davis de Californie, a tweeté des propos extrêmement agressifs envers les forces de police. Je cite « Je me félicite que tout flic vivant finisse par mourir, les uns de leurs propres mains, d'autres tués par leurs confrères et d'autres trop nombreux du fait du grand âge ». Et encore, du même, il y a des gens qui pensent que les flics devraient être réformés. Non, ils doivent être tués. Alors une pétition réunissant 10 000 signatures a demandé son exclusion de l'université. Mais Pamela Pareski rappelle le droit américain en ce domaine. Dans son arrêt de 1969, Brandenburg versus Ohio, la Cour suprême a a décidé qu'un État n'a pas le droit d'interdire à un particulier d'appeler à faire usage de la force et même à violer une loi, sauf si cet appel a des chances réelles de déboucher sur des actions violentes. Selon le droit des États-Unis, le professeur Joshua Clover a donc le droit de souhaiter la mort aux policiers tant qu'il s'abstient d'en tuer un lui-même.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique. On peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve la grande table avec Raphaël Bourgois.